Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
En première partie des Héros Anonymes, on parlait des lettres au Père Noël. Et là, ça me faisait réfléchir. Tu sais, on dit lettres, mais ça peut être des courriels et tout ça. Mais des fois, lettres, là, ça veut dire lettres. Ça veut dire lettres comme dans enveloppe avec un timbre et tout. Et notre prochain organisme que l'on reçoit souffre particulièrement en ce moment de la grève des postes. Et déjà, ils font un rôle essentiel pour aider des gens qui souffrent de solitude. Alors, si en plus, on n'a pas les moyens d'aller chercher le financement essentiel pour accomplir notre mission, bien, c'est un double défi. On en parle avec la présidente directrice générale de Les Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Chantal.
Oui, je pensais, quand la grève s'est déclenchée, je pensais à vous, les organismes communautaires. Je me disais, c'est pas tout le monde qui est familier avec le don en ligne, j'imagine.
Oui, c'est difficile, en fait, pour plusieurs organismes à but non lucratif, puis des fondations aussi, parce qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de fondations qui sont très impliquées. Donc, nous, récemment, on est sortis avec la Fondation de la DPJ, la Fondation de l'alphabétisation, puis la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants et adolescents victimes d'abus, parce qu'on est très touchés, surtout à cette période-ci de l'année. Notre campagne annuelle chez Les Petits Frères, c'est vraiment entre octobre et décembre que ça se déroule. Puis le mois de novembre, décembre, c'est énormément d'entrées de dons. Pour donner une idée, c'est au-dessus de 460 000 $ de chèques entre la période de novembre jusqu'à début janvier. En ce moment, on voit vraiment les donateurs, puis les gens qui nous apprécient, on voit quand même une transition avec plus de dons sur Internet. Puis il y a des gens qui nous appellent aussi pour le faire par transfert bancaire. Ils peuvent aussi faire des petits dons à chaque mois. Fait que ça nous assure d'avoir une entrée de fonds en continu pour aider les aînés isolés. Le travail qu'on fait depuis 62 ans. Mais c'est sûr qu'on est inquiet. En ce moment, les dons par Internet ne compensent pas la perte des chèques. Puis on espère que les gens ne vont pas nous oublier, puis qu'une fois que la grève va être terminée, qu'ils vont mettre à la poste leur montant.
Bien, c'est un peu pour ça, entre autres, de ces circonstances-là qu'on souhaitait vous recevoir, parce que les petits frères ne sont pas des héros anonymes, mais en effet, des fois, avec la surabondance d'organismes qui existent, on peut au grand classique.
Oui. Bien, en fait, c'est qu'il y a peu d'organismes qui viennent en aide directement aux aînés. Il y a des centres communautaires pour aînés un peu partout au Québec. Il y a des organismes qui ont de la clientèle aînée à travers leurs activités avec d'autres clientèles de différents âges. Mais chez Les Petits Frères, c'est vraiment l'aide aux aînés isolés de 75 ans et plus. Pourquoi 75 ans? Parce que les études démontrent qu'entre 65 et 74 ans, les gens sont moins... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas touchés, mais sont moins touchés par l'isolement puis la solitude. Donc, plus on avance en âge, plus cet isolement et cette solitude-là est présent dans la vie des gens. Et nous, on crée un lien affectif, un sentiment d'appartenance aussi, parce que les petits frères, ça devient pour eux une famille. Et on a 3000 bénévoles dans l'ensemble du Québec. Donc, on est dans 12 secteurs, 12 régions. Et ils viennent en aide, ces bénévoles-là viennent en aide aux aînés, donc créent des liens, vont les rencontrer à la maison ou font des appels téléphoniques, on crée des événements aussi. Donc là, on est dans la période des fêtes, c'est une période très, très importante, puis c'est une période où les gens sont plus isolés.
Oui, puis je disais d'entrée de jeu, des fois, quand on a perdu notre conjoint, notre conjointe, ça doit être particulièrement difficile si c'est quand même assez frais, là, parce qu'on s'ennuie, mais là, il y a tous les souvenirs associés à Noël aussi qui remontent. Alors, j'imagine que l'isolement est encore plus grand.
Oui, on a beaucoup de gens qui vivent des deuils de conjoint-conjoint, deuils d'enfants aussi, parce que des fois, les enfants prédécèdent, les gens vivent plus longtemps, vivent plus vieux, mais des fois, nos enfants nous quittent avant nous pour toutes sortes de causes, maladies, accidents.
On s'entend que c'est pas dans l'ordre naturel des choses.
Non, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, il y a le deuil, il y a aussi le deuil de toute forme, parce qu'on peut voir nos amis de notre âge. Peut-être que notre réseau, on n'avait pas vraiment un réseau familial fort, mais on avait un réseau d'amitié. Puis là, les gens décèdent aussi, fait que là, ça vient difficile. Et des fois, il y a des changements aussi de passer de leur logement à une résidence ou de leur logement à un CHSLD parce qu'on vient en aide aux gens partout où ils sont. Fait qu'ils peuvent être des locataires, des propriétaires, peuvent être en résidence, peuvent être en CHSLD également. Donc, toute cette période-là peut être difficile pour les gens. Et en région, notamment, la perte d'un permis de conduire, ça peut être une époque difficile pour nos aînés parce qu'ils pouvaient aller à des activités. Puis là, sans le permis de conduire, ils sont beaucoup plus reclus à la maison.
Et est-ce que c'est... est-ce que c'est surtout des références ou c'est eux-mêmes qui disent « je vais les appeler parce que je sens que j'aurais besoin de parler avec quelqu'un »
On a comme un 5 à 10 % des gens qui s'auto-réfèrent. Moi, ça me rend toujours quand même assez triste parce que je me dis ça prend du courage pour appeler. Oui. Fait que je pense que les gens qui se rendent compte qu'ils sont vraiment isolés, qui ont peu de contact dans une semaine avec des personnes proches, bien, c'est ça. Ça prend du courage pour nous appeler. Il y a 42-45 % qui viennent du réseau de santé et services sociaux, donc beaucoup de travailleurs sociaux, d'infirmières.
Qui voient, par exemple, que ces gens-là ne semblent pas avoir de famille proche ou
d'amis. Pas de visite. Et là, ils nous appellent. Ils demandent d'abord à la personne si la personne accepte, mais après, ils nous réfèrent des possibilités avec différents aînés.
Et pour les bénévoles, ils se retrouvent à peu près dans quel groupe d'âge?
Bien, en ce moment, on a une moyenne d'âge à peu près 54 ans pour les bénévoles, mais ce qui est très encourageant, c'est qu'on a 23 % de nos bénévoles qui ont entre 18 et 35 ans.
Ah, d'accord. Et c'est un chiffre qui augmente?
Oui, c'est nouveau dans les dernières années. Je ne sais pas si avec la COVID, il y a eu une conscientisation.
On a beaucoup parlé des aînés, en effet,
On ne demande pas l'âge des gens qui nous font des dons, mais certainement que c'est plus âgé. Fait que j'invite les jeunes de 18-35 ans à faire des dons aussi. C'est bien qu'ils nous donnent de leur temps, c'est parfait, puis qu'ils deviennent bénévoles. Mais on a besoin aussi de sous pour accomplir la mission parce qu'on a des coordonnateurs qui font le lien entre les bénévoles et les grands... Nous, on les appelle les grands amis, les aînés isolés. Affectueusement, on les appelle nos grands amis et nos grands amis. Donc, on a des coordonnateurs un peu partout dans les 12 régions qui font le lien. Habituellement, on essaie d'avoir autour de 70 grands amis avec plus que 70 bénévoles puis un coordonnateur pour gérer, dans le fond, toute cette relation-là avec ces bénévoles-là.
Puis, comment ça se passe, le jumelage? C'est au duo de décider s'ils veulent s'en tenir à des appels ou s'ils veulent faire des activités? Comment ça se passe?
Bien, il y a à peu près... Il y a des gens qui veulent entrer en... Souvent, la porte d'entrée, c'est de devenir... devenir un grand ami des petits frères, mais ils ne veulent pas nécessairement, dès le premier coup, avoir un jumelage. Parce que ça peut être inquiétant, un peu un jumelage, ils ne connaissent pas les personnes, etc. Fait que souvent, la porte d'entrée, c'est via un événement. Donc, ça peut être l'événement des fêtes, ça peut être l'événement autour de Pâques. Il y a plein d'activités aussi qui sont organisées dans les différentes régions.
Donc, à ce moment-là, on peut, comme bénévole potentiel, venir vous aider?
Oui, on s'inscrit pour devenir bénévole. Puis là, bien évidemment, on fait une vérification des antécédents judiciaires hein, parce qu'on est devant des personnes aînées, donc qui peuvent être vulnérables. Là. Donc, on fait un certain nombre de vérifications. Il y a une petite formation qui est donnée aussi. Ça peut être en présentiel ou en virtuel. Et on regarde aussi comme bénévole la personne, qu'est-ce qu'elle aime, parce que ça peut être du jumelage, mais ça peut être, on a des bénévoles qui sont plus administratifs, donc qui nous aident dans la coordination du bénévolat. Il y en a qui sont plus à l'aise à organiser des événements, à aider pour Noël, Pâques, Saint-Jean-Baptiste, etc. Donc, on a toutes sortes de types de bénévolat. Et donc, ils s'inscrivent souvent via notre site Internet et puis par la suite, on leur envoie un certain nombre de documents à compléter. Puis le coordonnateur de l'équipe, selon leur code postal de leur région, va entrer en communication avec eux. On essaie de le faire quand même en proximité parce que les deux tiers deviennent jumelés. Donc, il y a le deux tiers de nos grands amis qui sont jumelés à des bénévoles, environ 65 à 70 % là, par année. Et ça, habituellement, bien, aux deux semaines, le bénévole va aller voir son grand ami. Et la semaine où il ne va pas le voir, il va lui téléphoner. Mm. Puis il y en a qui veulent que ça soit juste téléphonique. Soit à cause de la distance, soit qu'ils ne sont pas à l'aise que quelqu'un vienne à la maison. Mm-hmm. Fait qu'on respecte aussi la volonté des personnes.
Et l'organisme s'appelait avant les petits frères des pauvres. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé un peu dans votre environnement comme changement pour qu'on ait aussi un changement de nom?
Bien, en fait, nous, on existe au Québec depuis 62 ans. Au début, c'était juste à Montréal, mais on fait partie d'une fédération internationale. Mm-hmm. Les petits frères des pauvres ont commencé en France en 1946, donc il y a 78 ans. Et par la suite, ça s'est développé dans d'autres pays européens et ensuite en Amérique du Nord. Donc maintenant, en Amérique du Nord, il y a le Québec, il y a le Mexique, puis il y a cinq ou six chapitres aux États-Unis. Et donc, le nom initial, c'est Petits frères des pauvres. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu changement pour Petits frères seulement. En fait, ça peut paraître pour certains péjoratif d'avoir le des pauvres. Et nous, on s'adresse, on ne demande pas le statut socio-économique des personnes.
Non, parce que c'est l'isolement. On peut être dans une grande maison avec des comptoirs en marbre puis ressentir de l'isolement.
Oui, oui, effectivement. Donc, on s'adresse à tout type de personnes aînées isolées. L'enjeu, c'est ça, c'est vraiment d'avoir 75 ans et plus, puis on a certains critères pour valider l'isolement de la personne, mais on ne regarde pas le statut socio-économique. C'est sûr que les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, avec leurs revenus comme retraités ou comme aînés, ben, il y en a qui peuvent avoir plus de difficultés et c'est sûr que leur situation de pauvreté va avoir un impact, puis ça amène aussi des fois un plus grand isolement. Mais on a des gens qui ont des sous puis qui sont isolés aussi parce qu'ils n'ont pas de proches avec qui avoir des contacts affectifs.
Et on dit petit frère, donc on peut être une petite sœur et être un petit frère.
Oui, oui, on peut être une petite sœur. C'est vraiment le terme au départ qui avait été choisi, petit frère. En anglais, on dit little brothers. En Espagne, ils appellent ça amis des aînés.
Ah, OK. Donc, on a rendu le terme un peu plus...
En catalan global. Ou en espagnol. Oui. Mais je vous dirais que c'est déjà difficile au niveau de l'image de marque. Des fois, on est mélangé avec les grands frères, grandes sœurs qui, eux, s'adressent aux enfants. Mais on est là depuis quand même 62 ans. Fait que, au niveau de l'image de marque, ben, on essaie quand même que de plus en plus les gens connaissent.
Garder
quoi,
la
les
référence.
Frères.
Ouais, c'est ça. Garder la référence. En effet, c'est vrai que ça peut être mélangeant, grand sœur, grande frère, petit frère. la moyenne d'âge des grands amis.
Oui, la moyenne d'âge, on prend des gens à partir de 75 ans et en ce moment, notre moyenne d'âge est plus autour de 83-84 ans.
Semble-t-il que vous avez quelques centenaires aussi?
Oui, on avait récemment une trentaine de centenaires dans nos 2750 aînés accompagnés. Puis en moyenne, ils sont avec nous 4 ans. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Puis il y en a que ça va être juste pendant une année ou deux parce que des fois, ils décèdent. Ou ils déménagent beaucoup plus loin dans un territoire qu'on ne dessert pas. Ou encore, ils ont, puis ça, c'est une belle chose, c'est qu'ils ont des proches qui vont se remettre à s'occuper d'eux. Ben puis ils vont dire, ben j'ai plus autant besoin.
C'est ce qu'on voudrait à la base.
Hein? Oui, c'est ce qu'on voudrait. Donc, c'est ça. En moyenne, on est pendant 4 années là, en support avec ces gens-là. Mais il y en a que c'est beaucoup plus long, beaucoup moins long.
Puis une fois que le jumelage est fait, est-ce que la durée est déjà déterminée et dite aux deux parties?
Non, nous, on est là jusqu'à la fin de leur vie. À moins que la personne... Tu sais, c'est sûr qu'on a quand même... On veut pas d'agressivité auprès de nos bénévoles. Ou, tu sais, s'il y a des situations plus complexes qui surviennent, là, il peut y avoir des éléments. Mais on s'assure d'être présent dans la vie de ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie. Et même au-delà. Quand je dis au-delà, c'est que moi, ça m'a beaucoup ému la première semaine que je suis arrivée. Ça fait 16 mois que je suis chez les petits frères. Puis, en haut de l'escalier, tout près de mon bureau, à notre siège social à Montréal, on avait des urnes plusieurs urnes.
De
grands amis qui n'avaient même pas quelqu'un pour s'occuper de leur, de leur décès. Donc, ils avaient fait confiance aux petits frères puis ils avaient signé des papiers pour être enterrés sur le terrain des petits frères.
Wow.
Parce qu'on a des terrains dans plusieurs régions, à Montréal, à Laval, à Québec, etc. On a des partenaires qui nous offrent aussi des réductions parce que les frais funéraires, c'est quand même important.
Mm-hmm.
Puis le montant que le gouvernement donne lié aux frais, au décès d'une personne, c'est pas suffisant souvent pour les frais que ça implique. Alors, on avait ces urnes-là. Puis récemment, parce qu'il y a eu un conflit de travail au cimetière Côte-des-Neiges, donc malheureusement, ça a fait qu'on a accumulé plusieurs urnes parce que pendant plusieurs mois, on pouvait pas faire un événement. Puis au mois de septembre, on a fait un événement à notre cimetière. Puis on avait 12 personnes qu'on a honorées avec leurs bénévoles qui étaient présents. C'était très, très touchant. Puis on a eu des bénévoles qui ont témoigné. Donc, effectivement, puis il y a des gens qui sont quand même enterrés par des proches, là. Et à ce moment-là, à chaque année, au mois de novembre, on fait quand même un événement pour tous nos disparus, nos grands amis. Mmh. Fait que malheureusement, on a comme une attrition naturelle d'à peu près 20 % annuellement parce qu'on a des gens qui décèdent.
Est-ce qu'on voit des bénévoles qui décident de continuer avec d'autres grands amis ensuite?
C'est notre vœu. Mmh. C'est notre vœu. Puis d'ailleurs, de plus en plus, on offre de la formation liée au deuil parce que c'est quand même... Le bénévole, il s'attache quand même à son grand ami ou à sa grande amie. Mais oui, souvent, ils vont s'impliquer avec un... Des fois, ils prennent une pause, puis c'est correct aussi, de quelques mois pour vivre leur deuil, etc. Puis après ça, ils se réimpliquent avec un autre grand ami ou une grande amie, oui.
Catherine, si vous voulez, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. De retour au Héros anonymes pour notre dernier bloc. Nous sommes avec la présidente directrice générale des Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon. Catherine, on parlait de formation là, que les bénévoles doivent suivre et que malheureusement, il y a des grands amis qui meurent seuls, en fait, qui ont à peu près uniquement les contacts de leurs petits frères. Donc j'imagine là, que vous êtes dans une réflexion par rapport à tout ça, peut-être l'accompagnement vers la fin de vie.
Oui.
De quelle manière les petits frères peuvent ne pas s'engager dans ce processus-là?
Bien, on a des partenaires dans chaque région parce qu'il y a aussi des organismes à but non lucratif qui se spécialisent dans l'accompagnement de fin de vie. Fait qu'on réinvente pas, hein, puis on travaille avec eux. Par contre, des fois, certains grands amis insistent pour qu'il y ait quelqu'un des petits frères qui les accompagne dans ces moments-là. Donc, ce n'est pas tous les bénévoles qui sont aptes à le faire, mais ceux qui ont envie de le faire, mais il faut les aider, il faut leur donner les outils. Donc étant donné cette situation-là, on offre de plus en plus de formations de fin de vie. On a un projet, d'ailleurs, qu'on a déposé pour avoir du financement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du gouvernement qui va nous écouter.
Mais... On l'espère qu'ils sont à l'écoute ou encore que des gens du public là, qui apprennent à faire des virements en ligne. Demandez à vos enfants.
Ou de nous appeler. Ou de nous appeler, parce qu'en nous appelant, on peut aussi expliquer comment faire le transfert bancaire. Donc, par exemple, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, on a développé ces approches-là avec des partenaires pour la formation sur la fin de vie parce que parfois, ils n'ont pas de proches. Des fois, c'est l'éloignement aussi où leurs proches sont âgés aussi. Tu sais, j'ai en tête l'histoire d'une dame qui dont la sœur voulait venir, mais elle habitait à plusieurs heures de route, puis elle aussi était âgée, fait que c'était pas possible. Fait qu'on a eu un bénévole qui a fait l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est ça. C'est une partie de notre grande mission, mais la mission, c'est vraiment le lien affectif. Puis, il y avait un article, justement, dans les derniers jours, dans le Journal de Montréal, sur un couple d'immigrants brésiliens dans la fin trentaine qui sont engagés depuis 6 ans avec un grand ami qui vont voir, qui est en CHSLD. Au départ, il était dans sa maison, puis malheureusement, il y a eu des enjeux de santé, puis il a dû aller en CHSLD. Mais donc, ils sortent. On veut aussi développer aussi des sorties, oui, par nous, mais des fois, des petites sorties aussi plus simples, juste avec les bénévoles. Par exemple, l'été, aller prendre une crème glacée à la crèmerie. On n'est pas obligé d'avoir toujours des gros événements de sortie. Ça peut être des plus petites sorties aussi.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les 3000 bénévoles? Qu'est-ce qu'ils en retirent?
Ils nous disent que c'est important la participation sociale des aînés, puis de qu'on est dans une société qui ne se rend pas tant compte de l'impact de la solitude puis du vieillissement de la population. Beaucoup de bénévoles nous en parlent. Deuxièmement, ils nous disent à quel point, vous savez, vous arrêtez pas de nous remercier puis de nous dire bravo, mais moi, j'en retire tellement humainement beaucoup d'aller voir telle ou telle personne, mon grand ami ou ma grande amie, que je fais autant plaisir à cette personne-là que je me fais plaisir à moi, parce que ça vient vraiment me remplir. Tu sais, des fois, on le dit souvent, donner, c'est aussi important que de recevoir. Mm-hmm. Puis c'est ça que les bénévoles nous disent. Puis de plus en plus, on a aussi du bénévolat entre proches, donc deux sœurs qui s'inscrivent ensemble ou encore une famille. On a eu un dilemme cornélien dans les prix nationaux parce qu'il y avait des candidatures qui étaient de groupe. Là-dedans, il y avait des groupes de bénévoles puis des familles. Puis on s'est dit, il faudrait peut-être scinder en deux puis avoir un prix pour les familles puis un prix pour les groupes autres.
Que c'est des prix de reconnaissance.
Des prix de reconnaissance annuellement qu'on fait à nos bénévoles. Et puis, il y a de plus en plus de parents qui vont avec leurs enfants. Puis, l'année passée, ma fille est venue avec moi faire du bénévolat pour les petits frères le 24 décembre à un dîner de Noël. Elle avait 14 ans, puis elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui sont vraiment seuls à Noël. Parce que des fois, nos enfants, quand ils sont choyés, ils ont un entourage, une famille, des cadeaux, de la nourriture.
Non, vous avez raison. J'ai fait des paniers de Noël avec mon fils quand il était adolescent, puis il m'a dit comme à quel point ça l'avait marqué, ça lui avait fait se rendre compte qu'il est privilégié. Et j'imagine aussi quand on est un petit frère soi-même, c'est veux pas, on voit vers quoi la vieillesse peut aller. Puis si j'imagine, est-ce que ça nous amène peut-être à faire certains choix de vie pour se dire, je voudrais comme être plus entourée, je voudrais être plus en forme, préparer sa propre vieillesse?
C'est sûr que dans le jumelage, c'est pas tous les grands amis qu'on va jumeler avec des familles parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec la présence d'enfants.
Oui.
Mais on avait le témoignage d'une dame, je pense que c'était de Lévis, qui était justement en nomination pour un des prix, qui allait avec, elle a 3 jeunes filles, là, mais je dirais en 3 puis 8 ans. Puis c'est surtout une de ces jeunes filles qui avait une très grande conscience de l'importance des aînés. J'ai une toute petite fille là, de peut-être 7-8 ans, je trouvais ça magique. Et aussi, on a des personnes immigrantes à Montréal qui sont loin de leur famille d'origine, qui étaient très proches de leurs grands-parents quand ils vivaient dans leur pays et qui veulent recréer un lien dans ce pays d'accueil. J'ai vu des belles histoires aussi parce qu'il y en a qui ne parlent pas parfaitement français. Donc, là, leurs grands amis leur apprennent des expressions québécoises, pratiquent leur français avec eux. Donc,
Bien oui, parce que c'est la notion d'échange aussi que c'est important de faire valoir dans le bénévolat. Qu'est-ce qu'on en retire soi-même? Et j'imagine qu'il doit y avoir aussi des fois des perles de sagesse qu'on entend. Quand quelqu'un qui a passé à travers toutes ces étapes de vie-là Tu sais, tu peux avoir de la solitude. Ceci dit, tu as des choses à partager de ton expérience de vie. Donc, j'imagine que c'est bidirectionnel. Là. Ça vient c'est des deux côtés qu'on s'entraide.
Oui, il y a des perles de sagesse. Puis, je pense que ça fait en sorte que les gens voient la vieillesse différemment, mm-hmm. indépendamment des générations. Et je ne vous dis pas que c'est toujours facile d'être bénévole, parce que je ne veux pas que dans mon message, tout soit rose. Parce mm-hmm. qu'il y a des périodes où nos grands amis peuvent aller moins bien. Oui. Tant au niveau de leur santé physique que de leur santé mentale. Fait que je ne veux pas faire croire que c'est un long fleuve tranquille, mais je pense que les gens en retirent beaucoup plus de bénéfices côté humain que d'effets négatifs.
Et comment, Catherine, les petits frères, quel message vous êtes à préparer un petit peu au niveau de... C'est plus largement au niveau de notre société... Comment se préparer à ce vieillissement de la population? Bon, on le sait, en 2030, je pense que c'est une personne sur quatre qui va être âgée de plus de 65 ans. Comment est-ce qu'on se prépare à tout ça?
En tout cas, certainement, on n'est pas assez prêt au Québec. Mm-hmm. Ça, c'est clair, clair, clair. J'entendais Luc Maurice, justement, du groupe Maurice, dire la même chose. Et là, je parle... individuellement, mais comme société, puis au niveau gouvernemental. Là,
tu sais, à nos infrastructures, nos services.
À tous les niveaux. Je sais que notre ministre des Aînés, Sonia Bélanger, travaille fort. Elle a mis en place un plan d'action parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tant au niveau du transport collectif que des logements. On le sait, hein, il y a vraiment des défis de logement, y compris pour les personnes aînées, au niveau de leurs revenus. Chez les aînés, on en parle beaucoup ces temps-ci, de la question du revenu des aînés, de leur santé. Donc, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la participation sociale des aînés, ça a un effet... la prévention qu'on fait par cette participation sociale-là fait en sorte que les gens vont être moins malades par la suite et ça moins utiliser le réseau de la santé, absolument. Les hôpitaux, puis réduire les coûts parce qu'on le sait, là, en ce moment, on a un gros défi au Québec par rapport aux coûts de santé. Puis avec le vieillissement de la population, ça ne va pas aller.
Vous êtes un organisme de prévention. En conclusion, Catherine, est-ce qu'il y a une fibre sociale comme ça qui vous vient de votre mère, Louise Arel?
Bien, c'est sûr que c'est pas étranger dans les valeurs qu'elle m'a transmises, ma mère, puis mon père aussi, Michel Bourdon.
Merci beaucoup, Catherine Arel-Bourdon, présidente directrice générale des Petits Frères. Et j'invite les gens à vous appeler et à faire des dons, à soutenir votre œuvre. C'est vraiment essentiel, une œuvre de prévention essentielle. Merci à toute notre équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. Et je vous invite à écouter toutes nos autres émissions qu'on retrouve sur canalm.vues et voix.com et sur les plateformes de balado diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bientôt.